pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde?
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz Interview. Passez un très bon moment sur Art District.
Avec Serge Mariani.
Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'il existe tout un écosystème de la musique et du jazz en particulier. De quoi cet écosystème est-il constitué? D'abord de musique et d'artistes pour l'incarner. Ils et elles n'ont pas toujours la vie facile, contrairement à ce que divers esprits chagrins voudraient faire croire. La récente période de disette consécutive à la crise sanitaire et à sa gestion l'a encore crûment démontré. Nombre de ces artistes n'ont pu se relever de situations dramatiques partout dans le monde. Musiciennes et musiciens travaillent donc, créent et produisent leur musique dans un écosystème qui n'est pas exactement une jungle, comprenant des lieux pour répéter et enregistrer leur musique, des lieux pour la jouer et rencontrer le public, des lieux réels ou sur Internet pour faire connaître et vendre leur production, des institutions pour soutenir leur activité et, si je n'ai rien oublié, des médias plus ou moins spécialisés pour en parler, plutôt en bien, mais parfois en mal, c'est ce qu'on appelle la critique. Et contrairement à ce qui se dit, si l'art est difficile, la critique ne l'est pas moins, en tout cas lorsqu'elle se veut constructive, qu'elle s'aventure hors de sentiers trop balisés et qu'elle ne cède ni aux sirènes de certaines chapelles, ni à celles du goût qui serait celui du fameux grand public, notion fourre-tout de marketing dans laquelle finalement peu de gens se reconnaîtraient en y regardant mieux. Dans cet écosystème, il y a donc des magazines, et parmi eux, Jazz Magazine, dont l'invité de cette Jazz Interview sur Art District Radio est le rédacteur en chef et directeur de la rédaction. Bonjour Frédéric Goati.
Bonjour.
Vous allez bien? Question rituelle.
Ça va plutôt bien, oui, oui. Enfin, bon, si j'étais pessimiste, vu que je travaille dans la presse papier, dans la presse musicale spécialisée, je dirais non, ça va pas très bien. Mais ça va moins bien qu'à une époque, mais je vais pas tenir ce discours parce que on est toujours là après bientôt 67 ans d'existence. Mm-hmm. Donc ça va pas si mal. 67 ans pour un mensuel de musique spécialisé qui plus est de jazz.
Oui, certes. Bon,
ça va.
Oui, ah oui, en effet. Bon, bah, vous venez de l'évoquer, mais c'est vrai que j'ai révisé un petit peu. Et moi, personnellement, j'ignorais la période Barclay. Je savais pas que c'était. Si on fait référence à 67 ans d'existence, et on part donc de 1954 avec Eddie Barclay qui fonde ce.
Pas Eddie, pas
Eddie peut-être personnellement, mais.
Alors, la famille Barclay, mais au moins autant, si ce n'est plus Nicole, sa première femme, qui était une femme très entreprenante, assez extraordinaire. Grande amatrice et connaisseuse du jazz, comme Eddie, vous allez me dire, mais peut-être encore plus qu'Eddie. C'était une volonté, chez l'un comme chez l'une comme chez l'autre, de créer un magazine moderne, plus moderne que le n'était Jazzot à l'époque, qui était un journal remarquable aussi, et qui a été le journal concurrent de Jazz Magazine pendant des décennies. Mais voilà, où la maquette était plus soignée, il y avait un peu plus de place donnée à la photo. Ce qui ne s'est pas vu dans les premiers numéros, mais qui a commencé à être flagrant plus tard, en fait, quand les Barclay avaient abandonné l'affaire, je dirais dans les années 64, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pour moi un âge d'or de Jazz Magazine. En tout cas, les Barclay, Nicole et Eddie, ont très, très vite... pardonnez-moi cette expression un petit peu familière, refiler le bébé à Franck Thénault et à Daniel Filipacchi, qui ont toujours assuré depuis en tout cas 2014 et la reprise du titre par Edouard Renker, la pérennité de Jazz Magazine. Et autour, ce qui est amusant, c'est qu'autour de Jazz Magazine, qui a été leur premier titre, ils ont construit leur empire de presse.
Oui, et la radio.
L'un venait de la radio, l'autre de Franck était secrétaire de rédaction, c'est-à-dire qu'il corrigeait les copies à Jazzot. À l'époque, il a même été un peu dans les deux magazines en même temps, sous des faux noms, hein. C'était un peu spécial pour lui. Et, Et Daniel était reporter à Paris Match, à Marie-Claire, photographe, fine plume, vrai et grand journaliste. Son papa travaillait dans l'édition, Henri Philippaki, était un grand monsieur de l'édition en France. Et je crois que c'est lui qui a inventé, en tout cas qui a pas inventé, mais qui a popularisé en France le livre de poche. Donc, vous voyez, c'est pas rien dans les années 30. Et puis, donc, au milieu des années 50, vers 55-6, c'est aussi l'époque d'Europe 1, des débuts d'Europe 1, et où ils ont rapidement animé une émission. Alors, le mot culte est suremployé depuis quelques années, mais pour le coup, la leur l'était vraiment pour ceux qui aiment le jazz. C'est une émission qui a bercé la jeunesse de nombreux amateurs de jazz ou d'amateurs de jazz en herbe. Beaucoup de gens ont découvert le jazz grâce à Daniel et à Franck. Et comme vous le savez sans doute, Daniel Philippaki a très vite, très rapidement aussi animé une émission qui est devenue un phénomène de société, qui était Salut les copains, où il passait aussi parfois du jazz, hein, principalement de la chanson de l'époque, ce qu'on appelait les yéyés, qu'il a littéralement inventé en quelque sorte. Hein, les yéyés, c'est une sorte d'invention de Daniel Philippaki. Mais enfin, il passait du Ray Charles, il passait des souls, des artistes qui aujourd'hui participent du monde du jazz. Parfois même, Franck Thénault mettait le bout de son nez dans l'émission. En tout cas, tous les soirs, ils animaient pour ceux qui aiment le jazz. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une émission quotidienne sur le jazz tous les soirs sur Europe 1, c'est quelque chose, hélas, d'inimaginable.
C'est un peu loin maintenant.
Non seulement sur Europe 1, mais sur n'importe quelle radio généraliste française. Et au milieu de tout toute cette histoire qui n'a cessé de grandir, hein, l'adresse de Jazz Magazine, c'est 63 avenue des Champs-Élysées.
Bien sûr.
Ça faisait très prestigieux.
Adresse mythique.
Nous, on avait un tout petit bureau de quelques mètres carrés au sixième. Philippe Carl, mon prédécesseur, qui a été rédac chef pendant très longtemps, a fait à peu près tous les étages du 63 Champs-Élysées. Même moi, j'en ai fait trois. Et voilà. Et puis, je vous la fais courte. En 1994, on a quitté les Champs-Élysées, on est allé à Levallois-Perret, où est toujours le groupe HFM, Hachette Philippaki Média. Puis en 1999, on est revenu sous la coupe de Franck Thénault, tout seul, qui en a eu un peu marre de tout ce système et qui a voulu nous reprendre. Il était à l'âge de la retraite, il avait revendu ses parts. Et en 99, c'est une date importante parce que c'est l'année où on revient sur les Champs-Élysées, puisque Franck Thénault avait gardé des bureaux sur les Champs-Élysées. Et c'est aussi l'année où il a racheté une fréquence avec Jean-François Bizot, qui était à l'époque le patron de Radio Nova. C'est aussi l'année où ils ont racheté la fréquence de TSF, qui au départ était la radio du Parti communiste. Donc la fréquence a été rachetée par Franck avec Jean-François Bizot et est née, comme vous le savez sans doute, TSF Jazz, qui au départ était assez proche de Jazz Magazine, l'est un peu moins maintenant, puisque TSF Jazz a depuis pas mal d'années, n'a plus rien à voir avec la famille Thénault et une radio indépendante maintenant qui appartient à Gérard Brémond, qui est le PDG de Pierre et Vacances. Tandis que Radio Nova, c'est pareil, appartient aujourd'hui à Mathieu Pigage, je crois. Donc, toutes ces radios ont changé de propriétaire. Nous, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est indépendant de nouveau. On appartient à un monsieur qui s'appelle le directeur de la publication. Donc, de fait, l'actionnaire principal s'appelle Édouard Reinker et il est assez fou et passionné pour avoir racheté Jazz Magazine en 2014. Et bon an, mal an, le fait vivre parce que c'est une aventure qui l'intéresse, le passionne, l'excite beaucoup. Enfin, du moins, je crois, puisque ça fait 7 ans qu'elle dure. Et on a traversé une période difficile, comme tout le monde, à cause de ce que tout le monde sait, qu'on ne va même plus nommer pour essayer de l'oublier. On est toujours là, peut-être pas aussi fort et vaillant qu'on l'aurait souhaité il y a 2 ans, où on était vraiment bien, mais voilà, le Covid, pour le nommer quand même, nous a fait très très mal, notamment à l'époque du premier confinement, où là, les marchands de journaux étaient fermés, ça a été une période très difficile. Pour la première fois de l'histoire de Jazz Magazine, moi j'y travaille depuis 32 ans, hein, donc je connais 35 ans même en tant que pigiste. Y a un numéro que nous avons fait, qui est le numéro 727, je m'en souviendrai longtemps de celui-là, mais qui n'est pas sorti, qui n'a pas été imprimé, qui est juste était disponible en digital, en version PDF en digital. Donc c'était un peu angoissant, mais on s'en est remis parce que peut-être que la musique et la passion, c'est plus fort que tout. Ça me paraît. Je ne dis pas ça, ça paraît un peu lyrique ce que je vous dis, la musique,
non,
la passion,
non,
c'est vrai. De toute façon, il faut être passionné pour faire ce qu'on fait, sinon, ça n'a pas de sens. Voilà.
Oui, c'est difficile, oui, sans passion.
Voilà, pardonnez-moi ce long.
Ah non, non, c'était passionnant.
Et c'est... Oui. Et la version courte, en plus, mais il y aurait plein d'autres choses à raconter.
Oui, j'imagine, bien sûr. Frédéric Goati, avant de faire une première pause avec un des titres que vous avez choisi pour cette émission, j'ai évoqué donc, tout un écosystème. Bon, bah, déjà, avec ce que vous venez de nous dire, on a quelques aspects, quelques facettes de ce que ça peut représenter et de la place d'un magazine comme Jazz Magazine dans dans cet univers. On va en parler plus en détail du numéro qui va sortir, qui est le numéro d'octobre, le 742, c'est ça, non ?
C'est ce que je dis.
742. Voilà, donc on va en parler dans quelques minutes. Pour l'instant, on va faire une première pause avec, je vous propose, parmi les trois titres que vous m'avez vous-même proposé, d'écouter Miles Davis. So What, et Miles Davis occupe une grande partie du numéro 742 de Jazz Magazine. On en parle dans quelques instants. Pour l'instant, on écoute le So What de Miles Davis. Thank you. So What, Miles Davis, un titre et un album. On a tout à l'heure, vous avez dit le mot culte est un peu trop élimé maintenant. Hein. Tout le monde est culte, n'importe quoi.
Ouais.
Culte,
hein, ça c'est le. Les films sont cultes avant même de sortir parfois.
Ah oui, c'est ça, bien sûr. Ça c'est le langage de la publicité. Hein. Un film et événement culte, déjà culte, enfin bon, etc. Mais là, on est quand même vraiment dans le sens le plus vrai du terme avec ce titre. Bon. Alors, on verra après avec l'autre titre que vous avez choisi d'un autre artiste aussi éminent que Miles Davis. Pourquoi ce choix particulier de So What ?
Dans le numéro de Jazz Magazine qui vient de paraître, on célèbre, c'est toujours étrange de célébrer les anniversaires de la mort d'un artiste, quel qu'il soit, parce que normalement, la mort d'un artiste, c'est un événement triste, mais... ça fait déjà, et d'ailleurs, le temps qui passe me laisse, enfin, je n'en reviens pas, ça fait déjà 30 ans que Miles Davis est mort.
Absolument.
Et j'ai l'impression que ça s'est passé la semaine dernière, ce qui, pour moi, veut dire qu'il est toujours d'actualité et que sa musique n'a absolument rien perdu de sa force, de son urgence et de sa nécessité. Alors, quand on dit sa musique, Miles Davis, c'est vraiment un cas à part parce que quelle musique de Miles Davis ?
Ouais.
On sait qu'à peu près, il a eu autant de vie qu'un chat, si ce n'est même beaucoup plus. Et qu'on connaît ce qu'on appelle aujourd'hui les périodes de Miles Davis. Ouais. Et Miles Davis a beaucoup d'admirateurs, de fans de par le monde. Mais c'est un artiste qui a toujours divisé de son vivant et qui continue encore aujourd'hui, puisque sa musique est à la fois facile à aborder parce que chaque période est très forte, mais il y a énormément de différences entre toutes ces périodes, entre ses débuts avec Charlie Parker, où il était l'un des innombrables jeunes trompettistes bebop, qui rapidement il s'est sorti il a voulu s'extirper de cette communauté musicale, changer un petit peu les codes de sa musique. Il a inventé, même si c'est pas lui qui a utilisé ce mot-là, le jazz cool. C'est-à-dire qu'il a enregistré des phases très différentes sous l'égide du grand arrangeur Gil Evans, déjà en 1949, il était pourtant très jeune, hein, qu'on a nommé plus tard, après, quand elles ont reparu en 33 tours, The Birth of the Cool, la naissance du cool.
Absolument.
C'était un jazz qui était perçu comme plus cool, plus froid, littéralement, plus arrangé, plus, un petit peu plus lisse, plus mélodique que le bebop, qui était une musique assez furieuse pour l'époque, très rythmée, très rapide, basée sur des improvisations fulgurantes. Et puis voilà, alors on va pas faire là aussi toute l'histoire de Miles Davis, mais il y a eu après une période proche du hard bop, et puis quand le free jazz est arrivé, il a toujours un petit peu flirté avec plus ou moins de dédain, de mépris, c'est avec cette musique, un peu d'angoisse aussi. Donc il s'est créé son propre univers acoustique en embauchant des très jeunes musiciens à l'époque, qui avaient pour nom Tony Williams, Ron Carter, Herbie Hancock, et évidemment Wayne Shorter. Et puis après, il est passé au jazz, qu'on a nommé rapidement le jazz électrique, puis le jazz rock, parce qu'il a toujours voulu vivre avec son époque, être bien dans son époque, toujours voulu se remettre en question, ne jamais considérer comme acquis quoi que ce soit. Et je pense qu'en plus de ça, sa personnalité, qui était très changeante, c'était un gémeaux, il s'ennuyait rapidement, et que quand il estimait qu'il avait réussi ou pas d'ailleurs quelque chose, il avait exploré, épuisé les possibilités d'une combinaison, de telle ou telle combinaison artistique ou musicale, eh bien il passait à autre chose, et beaucoup plus vite que le public l'aurait souhaité à l'époque. Finalement, à peine le public commençait de s'habituer à une esthétique liée à la musique de Miles Davis, que lui déjà avait déjà autre chose en tête. Il a fait la musique de son temps, il s'est rapproché du funk, de la pop. Il a voulu faire des choses avec des artistes comme Prince, et puis même sur la toute fin, il s'est rapproché des producteurs hip-hop, de certains rappeurs. Donc ça prouve bien que finalement, il a toujours envisagé la musique au sens le plus large du thème, du terme, et que le mot jazz avait finalement assez peu d'importance pour lui, même si je pense que Miles Davis est un musicien de jazz, qui a un langage de musicien de jazz, qui s'est formé au moment où le jazz était une musique forte, dominante, presque populaire, dans les années 40-50, avant que la soul, le rock n'apparaissent. Il a gardé ces codes-là, ce langage-là en lui, mais il n'a pas voulu se limiter esthétiquement au jazz. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de rejet, d'incompréhension. Mmh. Mais ça ne l'a pas empêché d'être toujours un musicien adulé et qui, 30 ans après, n'a absolument rien perdu de son pouvoir d'attraction. Et pour revenir à So What, ce qui est absolument magique avec Kind of Blue, puisque So What, on le sait, c'est le premier morceau de cet album maintenant tout à fait légendaire, qui est un peu au jazz que la Joconde est à la peinture. Moi, ça fait presque 40 ans que j'écoute ce disque et je n'ai jamais l'impression d'écouter le même disque quand je l'écoute. Ouais. Et donc, pour revenir à Jazz Magazine aussi plus précisément, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire pour les 30 ans de sa mort ? Qu'est-ce qu'on va faire qu'on n'a pas déjà fait très souvent ? Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est sans doute l'un des artistes, si c'était même l'artiste dont on a le plus souvent parlé dans Jazz Magazine depuis la naissance du magazine.
D'ailleurs, dans le dossier, Frédéric Goetti, dans le dossier que vous avez fait d'une trentaine de pages, on voit une série des magazines qui lui ont été...
C'est l'idée de ce dossier. C'est-à-dire que, pour une fois, on n'a rien créé de nouveau. On a ouvert, on a feuilleté toutes les pages de Jazz Magazine depuis le numéro 1. On a fait une espèce de best-of de tout ce qui avait été publié dans Jazz Magazine sur Miles Davis, que ce soit évidemment les rares entretiens qu'il nous a accordés, parce que ce n'était pas un grand bavard, un grand donneur d'interview, les articles qui lui étaient consacrés, les propos d'autres musiciens parlant de lui, même des petits flashs d'époque qui sont très amusants à relire, parce que dans les années 50, on annonçait des choses qui, évidemment, certaines se sont réalisées, d'autres non. On s'inquiétait beaucoup de sa santé à l'époque, des problèmes qu'il avait aux États-Unis, liés parfois à des condamnations à cause de la drogue, à ses problèmes de santé. On a republié le compte-rendu que j'avais fait quand j'étais jeune pigiste, au tout début des années 90. Donc, c'était son dernier concert à Paris. On ne le savait pas quand on y a assisté. C'était le fameux concert de la Villette en 1991, où pour la première et dernière fois, il avait accepté de rejouer la musique du passé avec les musiciens qui l'avaient accompagné dans les années 50, 60, 70. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a essayé de refléter dans ce dossier, qui est mis en page de manière assez créative qui est très coloré, c'est assez émouvant de retrouver des vieilles mises en page de Jazz Magazine des années 50-60. Et on a même remis des publicités d'époque sur des disques de Miles qui venaient de sortir, qui étaient assez jolies, elles étaient très créatives, les publicités dans les années 50-60. Ça fait un ensemble, je crois, assez original. Voilà.
30 pages, c'est beaucoup, mais ce n'est pas la totalité du magazine. On va en parler un peu dans la séquence qui va suivre, Frédéric Goetti. Mais donc, nous allons faire une deuxième pause musicale avec pas rien, encore une fois. Vous l'avez évoqué, vous avez prononcé son nom il y a quelques minutes, John Coltrane, avec un des, on va dire, mouvements de Love Supreme, dont une édition reparaît actuellement. Voilà, John Coltrane, nous écoutons Psalm de Love Supreme et nous retrouvons juste après pour la suite et fin de cette jazz interview avec Frédéric Goetti de Jazz Magazine. Là, John Coltrane. Un des mouvements, comme je l'ai dit précédemment, un des mouvements du très très beau fameux Love Supreme de John Coltrane, alors qui ne reparaît pas, j'ai fait une faute en disant cela, c'est un inédit en fait dont il est question aussi dans ce numéro 742 du Jazz Magazine dont nous parlons et dont nous allons parler un peu plus en détail maintenant avec Frédéric Goati, son rédacteur en chef, directeur de la rédaction. Frédéric, oui, c'est un inédit, c'est-à-dire, en fait, précisez-nous de quoi il s'agit. On est toujours surpris qu'il y ait... On tombe parfois, on revoit sortir des albums, enfin plutôt exactement des enregistrements. On a trouvé un enregistrement inédit de, Louis Armstrong ou Miles Davis, comme on vient d'en parler il y a quelques minutes. Et là, c'est Coltrane.
C'est la mode, n'exagérons rien, c'est pas une mode, c'est un phénomène qui se précise, qui s'amplifie depuis quelques années, c'est que vu que l'âge moyen des acheteurs de disques est à mon avis se situe entre 40 et 70, 70 ans aujourd'hui, c'est jeune finalement, c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat, et que les nouveautés qui sortent, quel que soit le style de musique, à mon avis, sont plus souvent maintenant écoutées en streaming qu'achetées. Les maisons de disques créent des événements, alors parfois à juste titre, bon parfois c'est un petit peu tiré par les cheveux, sur des inédits live ou studio. Il y a 3-4 ans, il y avait déjà eu un inédit studio de John Coltrane enregistré en 1963. On va appeler ça, c'est le phénomène des lost albums, des albums perdus. C'est pas vraiment des albums perdus, c'est plutôt des enregistrements ou des bandes perdus, mais qui ne le sont plus, qui ont été retrouvés. Ce qui est fascinant avec ce concert inédit de John Coltrane, qui date de 1966, qui a été enregistré à Seattle, c'est qu'il joue dans son intégralité sa suite la plus célèbre, The Love Supreme, dont tout le monde, tous les amateurs de jazz connaissent la version studio. Il y a une quinzaine d'années, avait déjà paru la version live de Love Supreme qui avait été enregistrée à Antibes, en France, Cocorico, en 1965. On pensait à l'époque que c'était la seule fois où John Coltrane avait joué Love Supreme sur scène. Eh bien non, cette bande donc vient de surgir, éditée officiellement, parce que il peut y avoir des éditions non autorisées qui sortent dans le milieu de la musique, d'éditions pirates. Mais là, non, c'est autorisé, c'est officiel. Les ayants droit de John Coltrane, Ravi, son fils, sont au courant, évidemment. C'est assez bouleversant d'entendre John Coltrane et son quartet avec Pharoah Sanders, le grand saxophoniste en plus, donc jouer cette version de Love Supreme. Et on dit qu'il y a une autre version. Il a joué une troisième fois Love Supreme la même année. Je ne sais plus où, excusez-moi. Mais a priori, ça n'a pas été enregistré. Et comme dirait le signataire de l'article qui vient de paraître dans Jazz Magazine, donc qui s'attarde, qui est une grande exploration de ce disque, le titre de cet article, c'est « Jamais Dieu sans trois ». Ce qui est assez joli parce que finalement, on connaissait jusque-là que deux versions de Love Supreme et en voilà une troisième. Moi, je pense sincèrement, et je ne dis pas ça pour militer parce que je fais Jazz Magazine, je pense que c'est une des musiques les plus vivantes d'aujourd'hui, mais qu'on ne s'en rend pas compte ou qu'on ne veut pas le savoir parce que c'est une musique qui fait un petit peu peur, parce que c'est une musique tellement protéiforme et pas si facile que ça à appréhender que finalement, on préfère botter en touche et ne pas savoir. Le jazz de tout temps, de toute façon, a dû se passer à travers les gouttes, se faufiler dans des trous de souris. Et surtout, si on pouvait le comparer à une personne, à un être humain, a dû tendre la main, notamment depuis les années 60, à tous les genres musicaux commercialement dominants, pour pouvoir continuer d'exister parfois à travers eux. Mmh. Le jazz et la bossa nova, le jazz et la soul, le jazz et le funk, le jazz et le rock, évidemment, puis le jazz et la musique électronique, puis le jazz et le rap. Vous voyez, oui, on dit toujours jazz quelque chose. Mmh. Et moi, j'ai toujours dit que le jazz, c'était comme un passeport, le meilleur des passeports, mon amour du jazz, pour aller voyager dans d'autres musiques sans me faire avoir. C'est-à-dire, le jazz vous permet de comprendre si vraiment vous allez l'écouter en live, écouter des musiciens jouer live, ce que c'est que la vraie musique et la fausse musique. Parce que dans le jazz, s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est tricher. On peut faire semblant plus ou moins de jouer certains styles de musique. Là encore, je ne vais pas citer lesquels, on devinera. Et même devenir une pop star, une star mondiale, en n'étant pas vraiment musicien. En jazz, c'est impossible. On ne peut pas tricher. Ça n'existe pas. Il faut jouer, il faut savoir jouer. Voilà. Donc, la passion du jazz vous permet d'aller, même quand on va se promener ailleurs, de rester toujours, de pas être naïf et de faire la différence entre la qualité et la médiocrité. Et tout ça, mais je dirais même, oublions ces jugements très subjectifs entre le vrai et le faux. Voilà.
Alors, on a encore quelques instants avant de se dire au revoir, Frédéric Goati. Bon, on n'aura pas le temps, par contre, d'évoquer tout ce qui est rapporté, chroniqué dans ce
numéro. Non, il faudrait des heures.
Ben, il faudrait des jours, peut-être.
Peut-être même des semaines.
Ah là là. Et donc, bon, voilà, en dehors, comme on l'a déjà dit, de Miles Davis et Coltrane, bien entendu. Sur la couve, il y a aussi Giovanni Mirabassi l'interview et quelques autres. Et un musicien aussi dont on va parler dans quelques instants parce qu'on va écouter sa musique, un peu de sa musique pour se dire au revoir. Il y a donc d'innombrables, il y a de très nombreuses
chroniques. Oui, il y a les CD chroniques, les révélations qui sont importantes pour vous. Oui. Ne lancez pas là-dessus. Ouais. Là.
Je ferai la parenthèse quand même. Justement, je crois qu'elle est dans la catégorie des révélations. Je le dis parce que c'est une artiste que le très très jeune label de notre radio soutient, c'est la chanteuse Estelle Perrault qui est dans votre
Écoutez, Estelle Perrault, dès que j'ai son disque, et croyez-moi, des disques de chanteuses, on en reçoit beaucoup.
Je pense.
Vraiment, plusieurs par semaine. Donc, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, croyez-moi. Quand l'attaché de presse m'a envoyé ce disque, bon, j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai dit « Ah, bon, encore une chanteuse ». J'ai mis le CD parce que moi, je suis vieille école. J'adore mettre un CD, écouter la musique dans les règles de l'art. Et j'ai tout de suite tendu l'oreille et je me suis dit « Tiens, elle a quelque chose ». Et j'ai écouté l'album. En plus, je trouve son trompettiste, et j'espère qu'il m'en voudra pas, j'ai pas son nom en mémoire.
Hermann Mehari,
remarquable. D'ailleurs, il vient de faire un disque en duo aussi, lui. Ouais. Donc, on a eu tout de suite envie de la suivre. Donc, pour l'instant, on en est premier stade de cette histoire d'amour, la chronique de disque. Et puis, comme on dit toujours, plus si affinité. Donc, on va bientôt aller à sa rencontre. Peut-être même, elle jouera dans ce lieu qui nous est cher, qui est le Bal Blomet. Tout ça n'est pas encore décidé.
Absolument.
Mais, voilà, quand on aime une artiste, on a vraiment envie de la suivre, de l'accompagner, comme on dit aujourd'hui. Ça, c'est un terme un peu marketing que j'aime pas beaucoup, mais voilà, quand quelqu'un nous est cher, finalement, on n'a même pas besoin qu'on nous tende la main, qu'on nous dise ce qu'il faut faire. On laisse notre cœur parler. Ce mois-ci, c'est Estelle Perrault. Le mois prochain, ça sera quelqu'un d'autre. Chaque mois, quasiment, on découvre quelqu'un. Alors après, les carrières dures ou pas, c'est pas que de notre fait. On fait ce qu'on peut, nous. On dit tout ça, on l'écrit haut et fort, comme dirait l'autre. Mais oui, cette jeune femme, cette jeune chanteuse a quelque chose, ça c'est clair.
Alors quelqu'un qui a quelqu'un.
Et le trompettiste dont on voulait parler.
Hermann Mehari. Ouais. Alors Hermann Mehari, donc il y a en effet trompettiste américain. Alors c'est un autre dont il est question aussi dans le magazine et qu'on va écouter maintenant, c'est Theo Crocker. Alors en quelques mots, Frédéric Goati. On va tout de suite s'en rendre compte à l'écoute. Hein. Il y a un son très actuel dans la musique de Theo Crocker. Qu'est-ce que vous en diriez synthétiquement désolé du terme.
Theo Crocker, c'est typiquement le genre d'artiste qui est né il y a 30, même moins de 40 ans. Il doit avoir 35 ans, quelque chose comme ça. Qui a très rapidement appris le langage du jazz, mais qui a grandi en écoutant de la soul, de la new soul, D'Angelo, Rick Abadou, en écoutant du hip-hop. Et je pense qu'il ne fait pas les différences Pour lui, il n'y a pas de barrière et ça s'entend dans sa musique. Mmh. Il a une démarche très, très créative. C'est un musicien et une personne très intelligente. Il ne loupe pas une marche. Il y va tranquillement. Il en est à son troisième ou quatrième disque. Il a un esprit vraiment indépendant, voire un peu rebelle. Il soigne son apparence et il a raison, c'est important aussi. Il n'y a pas que dans les autres styles de musique que finalement les jazzmen, les jazzwomen ont le droit d'avoir un look branché moderne, c'est très bien. Mais le plus important, ça reste la musique et moi, ça me parle, ça me chante beaucoup parce qu'on y retrouve tout ce que j'aime dans le jazz et aussi dans les autres musiques, principalement la soul et le hip-hop. Ouais. Voilà.
Voilà. Eh bien, Frédéric Goati, on va en rester là pour ce numéro. Merci. 742, c'est moi, de Jazz Magazine. Voilà, je l'aurais dit encore une fois.
Le 742e,
ah, c'est trop tard. Voilà, on va se dire actuellement en vente le numéro d'octobre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique présentée, de jazz, bien sûr, mais de jazz avec plusieurs Z, plusieurs S. Et parmi toutes ces musiques, toutes ces versions et tous les articles qui sont dans le magazine, il y a des pages consacrées à Theo Crocker et on va se dire au revoir, Frédéric Goati, en écoutant le titre que vous avez choisi, Pathways. Voilà, merci encore d'avoir été l'invité de cette jazz interview sur Art District Radio et à bientôt pour le prochain numéro. Merci. De Jazz Magazine. Merci Frédéric Goati, au revoir. Oh,
Laurent de Wilde et pas de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz Interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Thank you.